Bien, alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Jésus, maître et ami. Maître et ami, c'est deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Quand on pense à un maître, on pense à un maître avec des esclaves ou au moins des serviteurs. Et on a un peu de mal à imaginer qu'il y ait une relation d'amitié entre ce maître et ses esclaves. Mais le Seigneur Jésus est un maître qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est déjà une personne qui n'est pas comme les autres. Et donc les deux choses vont être parfaitement conciliables. Alors, ces moments vont se dérouler de la façon suivante. On va d'abord aborder Jésus, notre ami, et puis ensuite on parlera de notre maître. Un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui croit Dieu et qui agit en conséquence. La foi, ce n'est pas simplement une sorte d'adhésion passagère à quelque chose, ouais, j'y crois, allez, j'y vais. Non, c'est quelque chose qui a des conséquences, qui se traduit par des actes qui montrent que vraiment on a mis sa confiance dans une personne. Donc voilà, Abraham a cru Dieu, il a agi en montrant cette foi, donc il a été un ami de Dieu. Et c'est vrai qu'Abraham est, on peut dire, à l'origine de toutes les bénédictions d'Israël, puisque c'est sa descendance qui va donner le peuple d'Israël, et puis aussi de l'Église, puisque nous sommes sauvés par la foi, et Abraham est le père de la foi, le père des croyants. Donc voilà un premier ami de Dieu. Il y en a un deuxième qui est appelé ami de Dieu, c'est dans le livre de l'Exode, donc c'est Moïse, on va lire aussi ce verset, chapitre 33 de l'Exode, verset 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp. Et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Voilà, donc vous voyez, ici est décrite la manière dont Moïse prie. Moïse s'adresse à Dieu et les gens qui observent disent qu'il parle comme un homme parle avec son ami. Donc là, il est appelé aussi ami de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il me semble que ça montre autre chose. C'est l'intimité. L'intimité d'un homme avec Dieu. Donc ici, c'est l'intimité. Il y a chez Moïse une grande liberté pour s'adresser à Dieu. Comme un homme parle avec son ami. Avec un ami, on se sent libre, on ne fait pas de manière pour parler. On parle comme ça, du cœur, spontanément. Quand Moïse s'adressait à Dieu, il parlait comme ça. Et je pense que c'est important pour nous aussi de ne pas essayer de prendre un ton particulier. Par exemple, quelquefois, on entend des frères qui prennent un ton spécial quand ils prient. Bon, peut-être que c'est parce qu'ils sont un peu intimidés, hein, ça, des fois, ça a des effets comme ça. Ou bien c'est pour imiter quelqu'un aussi, quelquefois. Mais en tout cas, une fois l'intimidation surmontée, je pense que c'est bien que chacun s'adresse à Dieu en toute simplicité. Et quelquefois, quand on invite des personnes non-croyantes ou autres, assister à un culte ou bien à venir dans un groupe de prière. J'ai souvent entendu cette remarque que les gens ont été frappés par la liberté avec laquelle on s'est adressé à Dieu. C'est quelque chose qui touche. Qu'il n'y ait pas de cérémonial, qu'on n'ait pas besoin de faire tout un cérémonial pour entrer en relation avec Dieu. Ça montre cette vraie relation que Dieu veut avec nous et c'est quelque chose qui peut toucher. Donc voilà, soyons simples avec Dieu. C'est pas la peine de faire des manières avec Dieu. On peut lui parler en toute simplicité. Et c'est un témoignage en même temps. Et donc ça avait frappé visiblement l'entourage de Moïse. Il parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Donc c'est l'intimité, la liberté que nous pouvons avoir devant notre Dieu. Et puis il y a aussi Jean-Baptiste. Alors là c'est dans le Nouveau Testament. C'est lui-même d'ailleurs qui s'intitule un peu ami de Dieu. Alors c'est plutôt ami du Seigneur Jésus en réalité, hein. Jean 3, verset 29. Il dit ceci. Je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend et tout réjouit à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Alors il faut bien comprendre ce que dit ici Jean-Baptiste. Donc il dit qu'il est l'envoyé, celui qui est venu avant le Seigneur Jésus, ensuite le Seigneur Jésus vient, et donc il va y avoir là l'époux, le Seigneur Jésus, et l'épouse, ça va être l'Église, qui va donc se former suite au message que le Seigneur Jésus va donner. Donc lui, il est là, un peu comme le dernier prophète de l'Ancien Testament, si on veut, d'une certaine manière, et il n'est que l'ami de l'époux. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est le Seigneur Jésus. Et donc quand il dit de lui-même, il s'attribue la qualité d'ami de l'époux, en fait, c'est un peu péjoratif. Parce que être l'épouse de l'époux, c'est plus grand que d'être son ami. On est d'accord. Une épouse, pour quelqu'un, c'est plus important qu'un ami. Donc voilà, une autre manière de voir la chose dans la bouche de Jean-Baptiste, un peu péjorative. Lui, il est l'ami, il a une relation de collaboration, on peut dire, avec le Seigneur Jésus, mais il y a bien sûr une relation plus intime qui va exister entre tous les croyants et le Seigneur Jésus, donc c'est comparé à un couple. Donc voilà ces personnages qui ont été appelés amis de Dieu. Alors on peut se poser la question maintenant, est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment notre ami? Parce que quand même, le Seigneur Jésus c'est quand même le créateur de l'univers, c'est quelqu'un de très grand, de très important. Est-ce qu'on peut avoir une relation d'amitié avec lui? Alors si on peut le dire, c'est parce que lui-même l'a dit. C'est bien toujours d'affirmer quelque chose en se basant sur une parole du Seigneur Jésus lui-même. Alors on va lire tout de suite dans Jean 15. On va lire du verset 13 au verset 15. Jean 15, 13. « Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que moi je vous commande, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. » Voilà. Alors, il y a trois choses importantes dans ce passage. On parlera du verset 13 en dernier. On va commencer par le verset 14. Il y a quand même une certaine condition qui est posée ici. Être un ami du Seigneur Jésus, il peut être notre sauveur, ça c'est une première chose, si nous croyons en son sacrifice. Mais être son ami, ça implique quand même bien l'obéissance. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Vous voyez ? Alors on y reviendra. Est-ce que c'est seulement si on obéit ou est-ce que c'est quand même notre ami ? Bon, on y reviendra. Donc l'obéissance, quand même il y a une idée d'obéissance. Pour entrer dans cette intimité, il s'agit quand même d'être le chemin que le Seigneur Jésus veut pour nous. Si on est loin de lui, on peut difficilement être son ami. Si quelqu'un, vous ne le rencontrez jamais, vous êtes loin de lui, ben, vous n'allez pas avoir de relation d'amitié, c'est évident. Il y a une deuxième chose importante, c'est que ensuite au verset 15, l'ami sait ce que son ami fait, alors que l'esclave, le simple esclave, ne sait pas ce que son maître fait. Donc être un ami du Seigneur Jésus, c'est aussi avoir accès à un certain nombre de secrets, je dirais. C'est avoir une relation privilégiée qui fait qu'on va savoir des choses que les autres ne savent pas. Et ça, c'est intéressant de le rapprocher avec Abraham. Parce qu'Abraham, on l'a dit, il a été appelé ami de Dieu. Et quand Dieu veut détruire les villes de Sodome et de Gomorre, on lit au début du chapitre 18 de la Genèse que Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Vous voyez que l'amitié qui existe entre Dieu et Abraham, va pousser Dieu à révéler à Abraham ses projets. Alors, je pense que c'est important ça. Le fait que le Seigneur Jésus soit notre ami va faire qu'il nous révèle des choses. Donc, quelqu'un qui est vraiment près de lui, qui est dans cette relation d'amitié, me semble-t-il, va avoir un discernement particulier. Il va sentir des choses, à l'avance peut-être, il va comprendre des choses que les autres ne sentent pas. Et sur un plan plus biblique, je pense, tout ce qui est prophétique, tout ce que nous savons sur l'avenir. C'est une chose qui est très méconnue dans la société. Il paraît qu'aux États-Unis, ça intéresse un peu plus les gens. Armageddon, le millénium, alors il y a ceux qui sont pré-millénaristes, post-millénaristes, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Les gens sont assez intéressés par ce sujet de l'avenir. En France, non. Sauf dans le mouvement évangélique, en gros, ça intéresse un certain nombre de personnes, mais les autres pas trop. Et je crois que ça fait partie de ces confidences, un peu ces secrets de famille, d'avoir une certaine idée de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est lié à une relation étroite avec le Seigneur. Et si le Seigneur nous accorde cette grâce, c'est peut-être parce que des personnes ont eu cette relation d'amitié avec le Seigneur, de proximité, et ils ont compris un certain nombre de choses, et ils nous en font maintenant profiter. Donc, quelquefois, je me pose la question si c'est un bon sujet d'évangélisation que de parler de l'avenir d'après la Bible. C'est un peu confidentiel, l'avenir d'après la Bible. Si tout le monde se met à s'y intéresser, il n'y a plus d'effet de surprise, vous comprenez? Tout le monde va s'attendre à observer dans l'actualité des événements pour essayer de dire « Ah, est-ce que finalement je vais y croire ou pas y croire ?» Il me semble que c'est plutôt un privilège de ceux qui croient que d'avoir une certaine idée de ce qui va se passer dans le futur. Mais en tant que croyant, évidemment, c'est tout à fait juste de s'y intéresser. Alors voilà, l'ami, il a accès à un certain nombre de secrets que le Seigneur va lui révéler. Alors, ce que j'ai gardé pour la fin, c'est le verset 13, donc dans ce passage, bien sûr, la qualité de l'ami, c'est de pouvoir compter sur l'amitié de son ami, et donc le Seigneur Jésus a poussé cette amitié jusqu'au bout, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Donc voilà, on peut dire, la mesure de l'amitié du Seigneur Jésus pour nous, c'est d'avoir été jusqu'à donner sa vie. Alors, on va passer maintenant à d'autres versets des évangiles où le Seigneur se dit être notre ami. Luc 12, verset 4. Alors, le Seigneur parle de ce qui va se passer après son départ. On peut lire déjà au verset 3, « C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera publié sur les toits. Mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. mais je vous montrerai qui vous devrez craindre.